Chers auditeurs, c'est si vous voulez me prêter vos oreilles. Écoutez, en ce printemps, j'ai l'idée de vous proposer de vous parler d'un album de famille. Collection dirigée par Pierre Bonte, Rabelais, Nostradamus, Paul Valéry, Thierry Ardisson, Michel Galabru, Régnier de Monaco, Christian Lacroix, Mylène de Mongeau, Nicole Garcia, tous et toutes ont été à un moment quelconque de leur vie des Montpelliérains. Ils ont marqué l'histoire de la ville ou en ont gardé des souvenirs inédits. Ils font partie de l'album de famille de Montpellier, aussi bien d'autres célébrités dont je vous laisse le plaisir de découvrir les noms et les témoignages au fil de ces pages. Non, il n'est pas de bon bec ou de bonne plume que de Paris. Mathieu Seyela le prouve brillamment en rendant enfin à Montpellier la part de gloire qui lui revient. Et on va commencer par Joseph Dalteil. Il y avait là-bas, dans les garrigues de Montpellier, la détaillerie. Monté à Paris à 25 ans, coqueluche des milieux littéraires de la capitale, l'audois Joseph Dalteil effectua le premier, en 1934, un surprenant retour à la terre. C'est à la Tuilerie de Massanes, au port de Montpellier, qu'il décida de cultiver ses vignes, son amour pour Caroline, et de donner là ses derniers livres. Dans un entretien avec Pierre Lost, ce brouilleur de mots crus nous livre les clés de son chez idéal, la détaillerie. Pierre Lost, cher Joseph Dalteil, depuis quand habitez-vous la Tuilerie de Massanes ? Ah ! La Tuilerie, je ne suis pas née en réalité, bien que certains journaux aient prétendu que je m'étais retirée dans la propriété de mon père. Non, nous avons acheté en 1937, mais je considère que c'est ma maison sur la terre. C'est celle où j'ai le plus longtemps habité, celle où j'ai fait ma coquille, comme un escargot. Voulez-vous nous décrire un peu la Tuilerie ? Lorsque l'on pénètre dans la maison, quelle est la première pièce ? Eh bien, la première pièce est une espèce de préambule ou de vestibule où il y a un tas de chinoiseries qui traitent de la propriété. Parce que finalement, c'est un vignoble, la Tuilerie de Massanes. Je l'ai acheté pour faire du vin, pour cultiver des vignes. Alors, il y a toute une collection de vinifera, toutes les catégories que j'ai expérimentées moi-même et d'autres qui sont un peu féeriques, un peu utopiques, mais enfin, qui font bien dans le paysage. Il y a aussi des olives qui baignent. Ce sont des olives que j'ai achetées. Il y avait une centaine d'oliviers ici. L'ancien propriétaire les a arrachés pour planter de la vigne. Dans le Midi, vous savez, la vigne, il n'y a que ça. Je le regrette beaucoup parce que qu'avoir une centaine d'oliviers maintenant, ça me ferait chaud au cœur. Et on voit aussi partout des pommes, de l'ail, des grappes de raisin. Ce n'est pas pour la beauté, attention, c'est pour notre consommation. Parce que nous sommes une petite société de consommation, et alors nous avons un peu de tout comme ça. Par exemple, l'ail vient de Revel. Quand je suis à Revel, je m'apprivoisionne en ail. Quand je passe dans un endroit où il y a du pain fameux comme dans la Drôme, je ne manque pas de rapporter une douzaine de pains. Et tout à l'avenant, je fais venir ma viande de Charolais, l'huile, je la fais venir de l'Urs. Vous savez que l'huile la meilleure de France, c'est l'huile de l'Urs. Vous connaissez l'Urs ? Il y a eu des massacres d'Anglais. Dans la pièce qui suit le préambule, il y a des quantités de bouteilles alignées sur une grande table. J'appelle ça mon laboratoire. C'est un résidu de l'époque où j'étais vraiment vigneron, et où j'avais à faire des pesages de vin, des dégustations, un tas d'opérations de ce genre. Comme nous n'avons qu'une pièce ici, la même pièce sert de salle à manger, de salon, de laboratoire. De musée aussi, pourquoi pas. Et alors, ces bouteilles qui sont encore sur la table, j'aurais dû les jeter. Mais je ne sais pas où, alors elles restent là. Que contiennent-elles? Elles sont à moitié vides, à moitié pleines. En général, dans les bouteilles, il y a de bonnes choses. Il y a de la carthagène, certainement. Vous savez que la carthagène est le genre de boisson maison le plus simple, le plus commun dans nos contrées. Il doit y avoir également du vin cuit. Vous avez dit aussi que cette pièce était votre musée. Oh, j'ai dit musée non sans humour, parce que j'ai horreur des musées. Je préfère en fait des tableaux d'art, des petites pièces de rien du tout, qui m'amusent beaucoup plus. Et puis les grands tableaux, il faut des sous pour les acheter, et je n'en ai jamais eu beaucoup. Le grand tableau, par exemple, c'est une reproduction d'un des taureaux de la grotte de Lascaux. Je l'aime beaucoup. Je l'ai fait faire en très grande photographie. Il y a 30 ans qu'il est bien là, bien avant que je ne me proclamasse paléolithique. Un peu plus loin, vous avez le prophète Isaïe, qui est à Souillac. C'est un prophète en train de danser. Je trouve ça très amusant. Ça me donne de la joie au cœur et aux pieds chaque fois que je le regarde. Il me semble que la vie devient plus amusante avec ce gars-là, de ce compagnon. Et à côté, vous avez un tas de petites choses. Par exemple, une collection de fouasses. Vous savez ce que c'est des fouasses? Non, non, expliquez-nous. C'est du pain privilégié, arrangé, un petit peu formulé. Quand je voyage, chaque fois que je vois une forme de pain qui m'émoustille, ou qui m'agace, je la rapporte ici. Il y a une qui représente une danseuse un peu nue, là-bas, que j'ai rapportée de Castel Gandolfo, la cité des papes. C'est vraiment le boulanger du pape qui a fait ça. D'ailleurs, le pape est mon cousin. Vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas. Pas celui-ci. Jean 23. Nous étions cousins au sixième degré. Il y a Chalabre, un marchand de peau de lapin, qui était cousin au quatrième degré avec le pape. À Montazel, un de mes cousins était lui-même cousin au cinq ou sixième degré avec un autre cousin du pape. Les cousinages du pape dans l'autre, ça foisonne. Ça n'est pas désagréable, au contraire. J'aperçois là-bas la forme d'une main. Ah, ça, c'est ma main. Quelqu'un autrefois a dû me demander de poser ma main pour m'étudier sans doute. Je l'ai fait parce qu'en principe, je suis très désobéissant. J'ai horreur de dire non. Je ne dis jamais non à personne. Quand je n'ai pas envie de faire une chose, en général, ma réponse est « peut-être demain ». C'est la réponse du facteur. Si vous n'avez pas de correspondance aujourd'hui, il vous dit « peut-être demain ». Qu'y a-t-il encore dans votre musée? Vous avez là, au-dessus de la cheminée, une glace où sont insérées des photos, des cartes postales. De toutes petites choses. Une carte postale de Chagall, par exemple, avec une tête de chèvre. Un dessin de moi par Tristan Zara. D'autres, ce sont des petites choses de moi. Au-dessous, vous avez une photographie représentant Henri Miller et moi-même à Grenade, à l'Alhambra. Henri Miller est un de vos amis? Oui, c'est un de mes amis. Ce n'est presque pas croyable, parce que nous n'avons pas tellement de choses communes. Mais dès qu'on s'est vus, ça a collé. On s'est toujours beaucoup aimé. Il a été vraiment toujours gentil pour moi. Je l'aime à travers son œuvre, probablement. Il doit y avoir un Miller pour chacun de ses lecteurs. Et mon Miller à moi est beaucoup plus mystique, beaucoup plus asiatique, beaucoup plus religieux, si j'ose dire que nature, peut-être. Enfin, c'est dans ce sens-là que je le vois et que je l'aime. Et je crois que si on l'étudie à fond, on s'apercevrait que c'est une espèce de réformateur religieux, en même temps qu'un peintre de la vie, de sa drôle de vie. Probablement, c'est un personnage dont la stature nous échappe encore. Il grandira après sa mort. Quel homme est-il dans sa vie? Oh, il est tout à fait charmant. Il est gai, il est sérieux, il est pontifiant? Pas pontifiant du tout. Il est très simple, très amusant. Pendant un mois, nous avons voyagé en Espagne, tous les deux. Nous cassions la croûte sur les talus. Nous interrogions les bergers qui passaient, tous les ânes, qui s'amenaient par là, de façon très simple. Pourquoi avez-vous orthographié le titre de votre livre « La détaillerie » avec un H? Disons par décence ou par scrupule. je ne tenais pas tout à fait quand même à ce qu'on imaginât que c'était l'histoire de ma vie. Je voulais laisser la porte ouverte pour qu'on puisse croire, si on voulait bien, qu'il s'agit vraiment d'un roman, d'un personnage qui existait ou non, qui s'appelait Dalteil, plus ou moins. Et moyennant un petit H, je laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Vous dites dans votre livre que vous avez placé à votre porte un écriteau portant ceci « Bien et beau chien, méchant ». Je ne l'ai pas vu. Ah oui, mais je l'enlève chaque fois que mes amis arrivent. Je l'ai enlevé une demi-heure avant votre arrivée. C'est difficile à dire, parce que d'un côté, tous mes amis viennent quand ils veulent, ils s'installent, si je ne suis pas là, ils font tout ce qui leur plaît. Mais il faut que ce soit mes amis proches ou lointains, j'ai horreur de ce qu'on appelle les passants. Tous les gens qui viendraient juste pour voir le phénomène ou pour donner un coup d'œil, j'avoue que je suis très scrupuleux sur ce point. J'ai par exemple un grand ami qui s'appelle Lanza del Vasto, à Lodève, qui a fondé une communauté. Moi-même, je ne sais pas beaucoup le voir, toujours par scrupule pour ne pas l'avoir l'air d'y aller par curiosité. Il faut laisser les gens dans toute leur liberté, qui est le plus grand bien possible. Albert Dubout, je voulais devenir torero. Mes dessins ont bien marché. Le public m'a classé dans le rayon des rigolos, mais après ma mort, on verra ce que je faisais du sérieux. Je suis destinée à être posthume. Ainsi parlait Albert Dubout, un artiste à la plume géniale et à l'inspiration méridionale. Mais derrière le dessinateur consacré, le peintre inspiré et le cinéaste déluré, c'est un torero transi que l'on découvre. Si les taureaux ont vu passer Dubout dans le petit train de Palavas, Albertino a vu s'éloigner son habit de lumière entre Nîmes et Montpellier. Portrait de Dubout, aficionado par Albert Descazards. Autoportrait. Ce serait à Marseille que je suis né vers 1905. Mon beau-père était dans la musique militaire, alors l'armée le faisait voyager. Marseille a été ma première garnison. En réalité, c'est à Fos-sur-Mer que j'ai été mis au monde. Mon grand-père maternel, Amédée Chex, y avait une maison de campagne, en pleine prairie, et pas encore de pétrole. L'Amédée était comptable pour garnir la table et peintre pour garnir les murs. Je me vois encore ma main dans la sienne, cherchant un coin à peindre. Nous traversions les pâtures au milieu des taureaux. Il écartait ceux qui nous barraient le passage. Il me disait « Le taureau n'est pas méchant que lorsqu'il est seul, tandis que l'homme… » Pensionnaire au lycée de Nîmes de 1919 à 1920, le jeune Albert délaisse les cours pour les arènes voisines. Passionné de tauromachie, il adhère au club torero nîmois et d'aficionado, veut devenir torero sous le nom d'Albertino. Quand j'étais jeune, je voulais devenir torero. Je l'ai d'ailleurs été. Non, je n'ai tué aucun taureau. Mais il est juste de reconnaître, je vous garantis que c'est la vérité, qu'aucun taureau ne m'a encore né pour le compte. Et cette vocation fut l'occasion de ma première aventure policière, puisque j'ai été ramenée à la maison par deux gendarmes. J'avais alors 17 ans et toutes mes illusions. Je n'ai plus 17 ans, mais j'ai gardé presque toutes mes illusions, à part celles qui tombent de temps en temps. Les illusions sont comme les cheveux, mais chez un Marseillais, elles sont infiniment mieux implantées que chez les gens du Nord. Donc armé d'un simple sac à pommes de terre rouges, naturellement, j'attirais le terrible animal. Cela se passait pendant les fêtes de Sainte-Marie-de-la-Mer. L'arène avait été formée de charrettes et de cabriolets. C'était très pittoresque. Et au milieu de tout ça, sous les yeux d'une foule qui hurlait d'enthousiasme, car elle espérait que j'allais faire des étincelles, j'accrochais la cocarde classique entre les cornes du taureau, pour la reprendre ensuite au péril de ma vie. D'ailleurs, je ne parvins pas à récupérer le flot de rubans, et sous le dédain du taureau, je sentis que le fauve me considérait comme un fada. Soudain, l'animal cessa de me fixer pour regarder derrière moi. Je me retournai, deux gendarmes m'attendaient. « Minute, papillon !» fit l'un des pandores. Le taureau prit ça pour lui et recula discrètement de quelques pas. Le soir même, je n'en menais pas large auprès de mes parents qui m'avaient fait accueillir par la maréchaussée. Et ma mère, quand mon père eut terminé sa semonce, me redonna goût à la vie en me faisant déguster une de ces bouillabaisse dont elle avait le secret. La bouillabaisse digérée, je devins plus raisonnable et me lançai dans la caricature, mon autre marotte. Mais la tauromachie m'avait marqué d'un sceau indélébile. J'avais toujours devant les yeux les foules grouillantes des arènes. Voilà ce qui m'incita à me spécialiser dans la caricature innombrable. Élève à l'école des Beaux-Arts de Montpellier d'octobre 22 à 1924, Albert Dubout a cru très tôt en sa bonne étoile et en son coup de crayon. Témoin cette lettre où l'apprenti des dessinateurs parisiens pour quelques semaines voit même son avenir au-delà du dessin dans le cinéma. Paris, 3 mai 22. Mes chers parents, j'ai dîné hier avec les cousines Viguier dans un chic restaurant de la Compagnie française. Elles ont été très gentilles et très aimables, me donnant d'excellents conseils et, ô stupeur, ne me décourageant pas pour le cinéma, me disant évidemment de continuer de suivre le dessin, c'est sûrement ce que je veux faire, car tout le monde m'affirme que je possède un magnifique coup de crayon. Même un directeur d'atelier de dessin a avoué à mon frère qu'il aimerait posséder la puissance de mon coup de crayon qui fait que je n'use ni gomme ni règle. C'est, affirme-t-il, un don naturel. C'est le même homme qui m'a dit de rentrer dans son atelier pour dessiner et qu'il me ferait arriver sûrement. Ayant consulté les cousines Viguier, celles-ci m'ont répondu par l'affirmative. Mon frère est également du même avis. J'attends encore un peu pour voir le ciné, car j'en suis nullement découragée. J'écris à Georgette Clément cette semaine, également à grand-mère. Ici, je mène toujours la même vie, vie active, car à Paris, il ne faut pas être empoté. Je regrette nullement ma décision d'être venue ici, car je suis sûre que d'un côté ou de l'autre, j'arriverai sûrement. Baron de Sely va commencer un nouveau film, La robe déchirée, où j'espère tenir un rôle dedans.
Thank you.
J'espère que vous êtes en bonne santé. Il en est de même pour moi. Les cousines m'ont trouvé grand et gros. C'est la vérité, car je me porte 100 fois mieux ici. En attendant de vos nouvelles, recevez, chers parents, mes meilleures caresses. Votre fils dévoué, Albert. À Montpellier, Albert Dubout a pour camarades René Altier, Suzanne Balivet, Gabriel Couder, Camille Descossy, Georges Dezeuse et Germaine Richier. Il goûte aux joies de la vie de bohème, de la plage et du petit train de Palavas qu'il immortalisera sous les traits d'un petit tortillard bondé et loufoque. Mais c'est à l'occasion de l'exposition de 1924, Les Quatre Arts, que la revue Montpellier consacre à l'artiste en herbe sa première critique. Chez les humoristes, Dubout, qu'on ne connaissait pas encore, se révèle. Négligent et peu soigneux, sur ses papiers mal préparés, il donne des ébauches. Ces ébauches sont définitives. Qui n'y agite rien, elles portent tout. La verve endiablée d'une imagination à la peau, le pessimisme réaliste, le sens du grotesque des foules dans leur ensemble et dans leurs détails. Dubout le possède et l'emploie. Si un travail logique utilise intelligemment les forces d'un pareil talent, Dubout fera une belle carrière. Dubout a 19 ans et veut monter à Paris. Seule la capitale peut lui offrir le tremplin que son talent mérite. Avant de partir, le Montpelliérain Paul Coulet lui remet une lettre de recommandation pour Joseph Billet, conservateur en chef des musées nationaux. Une lettre qu'Albert Dubout, par timidité, n'utilisera jamais. Montpellier, le 14 janvier 1924. Cher Monsieur Billet, je vous recommande spécialement le porteur de cette lettre, un jeune artiste caricaturiste qui me paraît excessivement doué. Il n'a pas évidemment suivi le progrès de l'art actuel, mais cependant, il y a dans l'ensemble de ses travaux qu'il vous présentera un mouvement assez rigoureux dans le dessin. De ses sujets sont amusants. Je vous serai très reconnaissant si vous pouviez le recommander auprès des journaux humoristiques. Ceci lui serait d'une grande utilité pour affronter la vie si dure de Paris pour un artiste de province. Paul Coulet. Dubout, parti, seul, les vacances estivales le ramèneront à Lunel, Agde, Palavas, puis dans les dernières années de sa vie à Saint-Aunès, il a laissé à Montpellier ses premiers dessins publiés en 23-24 dans l'Écho des étudiants. On y retrouve déjà formés les principaux thèmes et personnages de son œuvre. Sparadrap, le petit bonhomme au canotier, et la grosse dame autoritaire inspirée d'un couple de gros bourgeois de Montpellier. Mais c'est un Dubout inédit que l'on découvre dans l'Écho de janvier 1924 à travers une histoire d'une passion bizarre, sa passion de jeunesse, la tauromachie. Pour mieux la défendre contre ses détracteurs, Albert Dubout non seulement dessinera, mais chose rarissime chez lui, écrira un texte. Le petit train de Palavas. Vous le connaissez ? C'est le petit train du midi, celui qui va de Montpellier à la plage de Palavas. Il paraît qu'il y a des plateformes. Je dis « il paraît », on ne sait plus. Il est toujours noir de monde. Pour ne pas le fatiguer, maintenant, en 1953, on ne le sort que le jeudi. Histoire d'une passion bizarre. Il y a longtemps, bien longtemps, dans la belle et chaude Provence, existait dans son cœur une grande passion bizarre. C'était une passion noble et élevée, venue d'un peuple latin qui habitait derrière les hautes montagnes blanches du sud-ouest de notre patrie. La foule bariolée se réunissait dans un grand cirque en pierre, dans lequel, sur sa piste sablée, on faisait sortir une grosse bête, noire et puissante, qui avait comme défense de longues cornes pointues. Puis il arrivait un homme élégant et mince, moulé dans de la soie et de l'or, qui, avec un manteau rouge, se présentait, sans aucune peur, devant une bête sombre aux yeux pétillants et armée de grosses cornes qui tuait. Alors cette brute qui aimait faire mourir pour pouvoir se barbouiller de rouge semblait un instant étonnée de courage de cet atome. Elle dressait la tête pour se grandir et mieux l'intimider en faisant ressortir ses armes mortelles. Mais le petit lutin d'or et de soie, impassible, ne bougeait pas. Alors furieuse, elle partait sur lui en remuant la poussière pour renverser l'imprudent qui osait affronter sa puissance. Mais l'homme mesquin, à la grande force brutale, opposait son intelligence et sa sérénité. Calmement, il faisait passer la grosse bête dans son manteau rouge, en un mouvement d'élégance raffinée et de courage merveilleux. Et la brute insatiable de vouloir tuer repartait sur la cape, cette cape qu'elle voulait saisir parce qu'elle lui semblait teintée de sang. Alors venait la péroraison du drame. Le lutin prenait un long poignard blanc, comme la corolle d'une marguerite, et son faible bras faisait entrer l'arme vierge qui tuait. La bête noire vaincue tournait, cherchant à s'appuyer, et puis doucement tombait devant l'homme. L'homme supérieur et courageux, qui en un duel loyal avait dominé la brute noire, armée de grandes cornes pointues, qui faisait mourir. Alors la foule provençale qui comprenait cette supériorité était folle de son petit lutin, si brave et si fort. Ben écoutez, chers auditeurs, avec Yves Delteil et notre ami Dubout, j'espère que vous êtes régalés. Et je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt!